Which way is America?
Hola.
D'où viens-tu, étranger?
Je viens d'un pays entre le nord et l'est. Je ne puis rien vous dire d'autre.
Il faudra repartir.
Personne ne doit me faire partir.
Bonjour chers auditeurs, après notre incursion dans les théâtres traditionnels indiens et chinois il y a un mois, et après notre exploration du street art iranien avec Léa Pizier il y a deux semaines, je vous propose de revenir en Europe, mais pas trop à l'ouest, car c'est dans les Balkans que nous posons aujourd'hui nos valises. Mais comme toujours, notre regard sur cette région sera guidé par une thématique précise. Nous avons déjà beaucoup parlé art et culture. Nous avons aussi discuté développement durable avec Lola et son tour d'Europe en voiture électrique et avec Bleuen au Costa Rica. Il est temps de parler sport et plus précisément football. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, tu es passionné de foot, cofondateur du site Footballski, consacré au football. Tu me fais un signe.
Pas cofondateur. Non.
Ah, tu es pas cofondateur, d'accord.
Non.
Excuse-moi, tu es juste tu es contributeur.
Contributeur, oui.
Donc je recommence. Tu es contributeur du site Footballski. Donc, qui est consacré au football d'Europe de l'Est, majoritairement, mais tu nous expliqueras ça juste après. Enfin, pas seulement, en fait, il me semble. Ça s'est un peu élargi.
Tout ce qu'on peut introduire dans la sphère, quand on parle des pays de l'Est, donc ça va... On parle de la Russie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine, les pays qui peuvent venir au premier abord, les Balkans, mais aussi le Caucase, ce qui correspond actuellement à l'Allemagne de l'Est, et l'Autriche, par exemple, qui avait une certaine influence jusque dans les Balkans.
Très bien. Alors, donc, tu nous raconteras un petit peu comment tu t'es intégré à ce projet et de quoi il s'agit exactement tout de suite après. Alors, on va commencer par la chronique habituelle des actualités voyageuses avant de passer à l'interview donc, et à la présentation de ce projet et de ton voyage dans les Balkans, surtout. Et enfin, on terminera par ton choix de livre d'inspiration pour le voyage et il s'agira de l'ouvrage de Gigi Riva, Le dernier pénalty.
Actualité
voyageuse. Les actualités voyageuses du jour, c'est l'exposition temporaire Peinture des lointains, ouverte depuis le 30 janvier au musée du Quai Branly. Alors, le musée expose pour l'occasion une partie de la collection de peintures qu'il conserve, avec une thématique assez classique, mais qui ne cesse jamais de nous intéresser, les voyages des peintres occidentaux à l'étranger, et surtout en Orient, et bien sûr les images qu'ils en rapportent. Donc on a surtout dans cette exposition des peintures du 19e siècle, car c'est la grande période de l'orientalisme, en fait. Mais ça va jusqu'à la première moitié du XXe, avec, par exemple, le voyage de Matisse à Tahiti. Et donc, c'est une chronologie qui traduit une évolution du regard posé sur l'ailleurs par les peintres, même si la fascination originelle exercée par cet ailleurs reste intacte chez beaucoup de peintres. Donc, ces peintures inspirées de voyages, des voyages des artistes, sont en fait, entre un geste artistique et une démarche de connaissance. Donc, il y a l'idée toujours de satisfaire une curiosité qu'on a pour l'ailleurs et pour l'autre. Et donc, les toiles sont souvent pleines d'exotisme. Et donc, cet exotisme, alors que nous rapportons tous, en fait, une multitude d'images de nos voyages actuellement, ça nous rappelle que donc, les images de voyage ont une histoire, histoire qui, au XIXe siècle, est inséparable de l'histoire coloniale. Puisque la vogue de l'orientalisme y est assez intrinsèquement liée. Donc, de la peinture exotique à la photographie de voyage, l'une des questions posées est toujours celle du regard que nous posons sur un lieu quand nous y occupons la position de l'étranger, du visiteur. Donc, pour aller voir ces toiles, vous avez le temps parce que c'est jusqu'au 6 janvier 2019. Voilà, donc ça a commencé le 30 au 30 janvier 2018. Ça va durer un an, en fait. Et donc, je répète les références, c'est l'exposition Peinture des lointains au Quai Branly. Donc, si vous voulez associer voyage et art, c'est l'occasion. Donc, je vais revenir au foot. Voilà, on parle de tout, hein, dans Il faudra repartir. On passe de la peinture au sport et c'est très très bien. Est-ce que, Antoine, déjà tu peux te présenter un peu ton parcours en dehors du voyage et puis aussi dans le voyage.
Donc, oui, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans et on va dire que j'aime bien dire je peux pas m'empêcher de m'intéresser au football. Et si on parle de voyage, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse bien. Donc j'ai toujours cherché un peu à essayer de mixer les deux. Depuis 2 ans, j'écris pour le site Footballski, qui a fêté ses 4 ans il y a à peine une semaine, et qui est donc consacré au football de l'Est. La première des missions quand les gens ont créé ce site, c'était de vouloir aussi faire découvrir des pays, des zones, des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, qu'on n'a pas forcément l'habitude de présenter sous un bon jour, et notamment en termes de football. Donc c'est une mission, parler du football dans ces pays-là, mais également essayer de parler d'autres choses à travers le football, de thématiques sociales, historiques, culturelles, et également donc entre gens qui écrivent sur ce site l'été, profiter un peu de notre passion commune pour aller dans ces pays-là et essayer de s'intéresser à ces pays-là et d'en ramener des belles histoires autour du football.
Et donc, où en es-tu en termes de voyage avant Footballski, par exemple?
Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs invités dans cette émission. Effectivement, j'ai profité des bourses Zelidja, donc... Ouais. qui permettent à des jeunes de 16 à 20 ans de partir en solitaire dans le pays du monde qu'ils veulent avec un sujet qui va servir de fil rouge à leur voyage. C'est parti au Costa Rica et en Corée du Sud avec ça. Et dans le cadre de Footballski, je suis parti en Géorgie l'an dernier et on est parti, parce que je ne suis pas parti tout seul, avec deux amis. Et on est reparti avec ces deux amis dans les Balkans cet été, entre Macédoine, Kosovo et Serbie.
Donc c'est sur ce dernier voyage qu'on va se concentrer dans cette émission. Donc tu es allé une fois dans les Balkans.
Oui, j'étais allé 2 mois avant. J'étais parti de Paris en stop jusqu'à Belgrade avec une autre amie. Pas du tout sur le thème du foot, mais arrivé à Belgrade, j'ai quand même eu l'occasion d'en parler un petit peu parce que j'avais trouvé juste quelques jours avant qu'un petit club de quartier qui avait une phrase sur son site internet qui était tout écrit en serbe. La seule phrase marquée sur leur site, c'était « Against Modern Football ». Ils jouaient dans les plus basses divisions du football serbe. « Against Modern Football », c'est une phrase qu'on peut entendre régulièrement en parlant de foot, et notamment la façon dont on veut montrer le foot. C'est quelque chose qui amène à considérer le football, voilà, pas forcément comme une industrie, comme quelque chose de totalement acquis à l'argent, comme... On peut souvent l'entendre, et donc ces gens-là étaient vraiment dans cette idée-là. Ils m'ont pour une journée à Belgrade, ils m'ont accueilli, emmené faire un match avec eux, partager un barbecue ensuite et quelques bières. Et c'était déjà une belle manière de. C'est mon premier jour en Serbie, mon premier jour à Belgrade. C'était une belle façon d'aborder ce pays.
Et donc tu y es retourné pour vraiment consacrer ton voyage à cette question-là. Est-ce que tu n'as pas voyagé seul? Tu étais avec combien de personnes?
Avec deux personnes.
Deux Footballski?
Oui, deux amis.
Ok, donc c'était vraiment un projet Footballski.
C'est ça, voyage. Et les deux personnes avec qui j'étais déjà parti en Géorgie, donc avec qui on partage certaines choses.
Donc pour rappel, les Balkans, c'est cette région qui couvre plusieurs pays, donc de la Croatie à la Bulgarie, si on parle de l'axe ouest-est, et jusqu'à la Grèce pour l'axe nord-sud. Est-ce que tu peux parler un petit peu de votre parcours géographique, en fait, là-bas? Vous avez commencé par quoi?
On a commencé en Macédoine, donc juste au nord de la Grèce. On a fait quelques jours à Skopje. Un pays qui était vraiment, vraiment intéressant dans le sens où on a également un pays qui est un peu séparé en deux, si on veut le présenter comme ça, entre les slavo-macédoniens, comme on va les appeler, et qui sont de religion orthodoxe, qui sont plus proches culturellement des Serbes et des Bulgares, et une population albanaise qui représente un quart des habitants, qui, eux, pour le coup, se ressentent... où ils se sentent pas du tout habitants d'un pays qui s'appelle Macédoine, mais totalement partie de l'Albanie. Donc on a eu l'occasion de visiter à la fois des parties albanaises et macédoniennes de ce pays-là. Ensuite, on est allé donc vers le Kosovo, passer quelques jours seulement au Kosovo, à Pristina. On voulait ensuite aller en Serbie, sachant que vu qu'on était passé par la frontière entre Macédoine et Kosovo, on ne pouvait pas passer directement de Kosovo en Serbie. En fait, les douaniers nous auraient refoulés en considérant qu'on a franchi une frontière illégale de la Serbie, parce qu'ils considèrent que le Kosovo est serbe. Et vu qu'on est passé par une frontière qui ne contrôle pas entre la Macédoine et le Kosovo, ils considèrent qu'on serait rentré un peu illégalement. Donc il fallait revenir en Macédoine pour ensuite repasser par la Serbie, par une frontière normale pour eux.
Ah oui, d'accord. C'est toujours comme ça ou c'était un cas exceptionnel?
Oui, c'est comme ça. Il y a des voyageurs qu'on avait croisés, qu'on avait pris le même vol pour arriver de Paris à Skopje, des Français qui voulaient faire un tour pareil dans les Balkans, qui a fait Macédoine, Albanie, Monténégro. Monténégro, qui va aller au Kosovo et ensuite repartir en Serbie parce qu'ils avaient leur vol. On leur a conseillé de pas le faire. J'ai eu des nouvelles après. Ils ont passé 10 heures à la frontière. Les douaniers les ont retenus le maximum qu'ils pouvaient pour les faire chier, juste.
D'accord. Et donc vous avez fini par la Serbie.
Ouais.
D'accord.
À Belgrade.
Et donc ces pays-là sont quand même assez méconnus. Enfin, on a une connaissance plutôt limitée de leur culture, voire de leur histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser?
Alors, l'Europe de l'Est en général, c'est honnêtement, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé au premier abord.
C'est vraiment beaucoup de gens, ouais.
Oui, voilà. Et c'est quelque chose qui regroupe vraiment des zones très différentes entre les Balkans, le Caucase. La Russie, les Pays-Baltes, l'Europe centrale avec la République tchèque, la Slovaquie. On ne peut pas les mettre vraiment dans une même zone, mais bon, y a l'héritage du communisme et des relations géopolitiques qui les ont marquées pendant 50, 60 ans. Je me suis intéressé tout bêtement, puisque c'est un de mes amis qui a cofondé le site, qui savait que j'étais intéressé par le football et que j'aimais bien écrire, qui m'a dit, voilà, lance-toi. Et j'ai juste vu qu'il y avait une place sur la Géorgie, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'articles, encore moins français, qui étaient écrits sur le football de ces pays-là. Je me suis un peu intéressé et je me suis pris au jeu. Et au final, ça a débordé, voilà, je me suis dit... En commençant à m'y intéresser, tous ces pays-là, toutes ces zones... J'avais envie d'essayer de découvrir un peu, de voir un peu tout ce qu'il y a. Donc on ne peut pas être spécialiste de chacun de ces pays-là, mais on essaye de s'y intéresser et justement d'intéresser les gens aussi à ces pays-là.
Donc ta porte d'entrée pour ce voyage-là, ça a été le foot en fait, enfin, pour ces pays-là.
Oui, complètement.
D'accord.
Voilà, comme je t'ai dit au départ, comme j'avais pu le vivre, je suis juste arrivé de Paris à Belgrade en stop et grâce au football, j'ai passé une journée avec des vrais Serbes à parler... de tout, de rien, c'est la façon la plus naturelle d'ouvrir les portes.
C'est vrai que ouais, quand on a un sujet comme ça, un objectif en fait dans son voyage, ça aide très très souvent aux rencontres et ça donne un prétexte en fait pour aller parler aux gens. C'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup quand on fait un voyage d'Elijah d'ailleurs.
Exactement.
Comme on a un thème d'étude. Et du coup, pour pour réaliser ces recherches, comment est-ce que vous vous y êtes pris déjà. Quelle personne vous êtes allé rencontrer? Quel lieu vous avez visité? Enfin, à quoi ressemblait à peu près votre emploi du temps pendant ce voyage, dans le cadre des recherches?
Pendant ce voyage, cet été, on a vraiment été assez chanceux sur les rencontres qu'on a pu faire, même si ça s'est dénoué assez vite et pas longtemps avant le voyage. On a pris des contacts dans pas mal d'endroits. Pas mal de clubs et des gens également qui essayaient de faire parler un peu du football de ces pays-là qu'on pouvait repérer sur les réseaux sociaux, qui pouvaient nous donner contact sur place. Et dans la plupart des endroits qu'on a contacté, les gens ont bien voulu nous recevoir. En Macédoine, dès notre premier jour, on est allé à Tetovo, qui est une ville du nord-ouest de la Macédoine, qui est la capitale, on va dire, de la partie albanaise, où le club de cet endroit-là, le Shkendia, jouait un premier match du championnat contre le Vardar Skopje, qui est le club de la capitale, qui est pour eux l'ennemi Oni, qui est le représentant des Slavo-Macédoniens, qu'on dit qu'eux sont les Albanais. Et là, les gens du club ont pris la journée pour nous recevoir, pour parler de l'histoire du club, parler tout en détail, en long, en large, de tout ce qu'on voulait. Sachant que donc ils avaient ce match l'après-midi à organiser quand même, et quelques jours après ils jouaient peut-être le plus grand match de leur histoire en Coupe d'Europe, puisqu'ils accueillaient le Milan AC en Europa League. Donc on a été quand même assez positivement surpris par cet accueil là, et ça a été très souvent la même chose à Stromitsa, qui est au sud de la Macédoine, plus proche de la Grèce, où là, qui est une petite ville macédonienne typique, orthodoxe. Pareil, les gens du club, un club créé par, pour les plus connaisseurs de football, Goran Pandev, qui est le plus grand joueur, on va dire, macédonien de l'histoire, qui joue encore en Italie, qui a créé tout simplement un club qui s'appelle Academia Pandev, qui voulait faire jouer permettre aux jeunes de son pays de jouer, qui finance absolument tout dans le club de sa ville pour le faire progresser, qui nous a accédé en première division. Et là, pareil, les gens ont pris la journée pour nous faire visiter les installations, le centre de formation qui s'était en train de construire, le stade, un peu de tout, quoi.
Donc vous êtes allé de match en rencontre et de rencontre en match. Et est-ce que vous avez privilégié dans votre approche des rencontres avec des professionnels, les clubs, les entraîneurs, les joueurs, etc. Ou alors aussi les passionnés, les gens de ces pays-là, la population, ouais. Et leur relation au foot. Vous avez fait les deux peut-être?
Oui, c'est ça, on essaie de faire les deux avec les opportunités qu'on avait. Par exemple, à Skopje, il y avait un autre match européen. On avait de la chance, en plus, il y avait deux grosses affiches européennes qui arrivaient à ce moment-là.
Alors, Skopje, tu peux redire le pays?
En Macédoine.
Oui, c'est ça, pour qu'on se repère un petit peu. Voilà. On ne connaît pas forcément les villes.
Ouais, Skopje en Macédoine, où le club de la ville recevait Fenerbahçe, le grand club d'Istanbul, pour un match capital en Coupe d'Europe. Donc il y avait pas mal de gens qui allaient au stade, alors que bon, en championnat ils tournent en moyenne à 200 personnes, donc on aurait un peu moins d'occasion de rencontrer du monde. Où on a essayé d'arriver très en avance au match, et on savait que les supporters se rassemblaient avant d'y aller devant une église d'ailleurs de la capitale, pour faire quelques chants et faire un cortège avant d'aller au stade. Donc on a pu arriver en avance et essayer de discuter avec les gens. On a des jeunes, plus ou moins 12-13 ans, qui parlaient très bien d'anglais, qui ont pu nous renseigner un petit peu sur eux, justement, leur vision du football dans ce pays, leur rivalité avec les clubs albanais. Avec des choses, on essayait d'avoir un peu, de comprendre tous les points de vue, de comprendre les situations. C'est quelque chose de pas simple. On ne s'en rendait pas forcément compte au départ, quand même, la situation vraiment en Macédoine. Mais du coup, pour une fois, je pense, quand on se présente en tant que journaliste, que passionné, les gens, on n'a jamais eu vraiment de réserve de la part des gens pour parler de ce qui pour eux est une passion. Et là-dessus, on s'estime assez chanceux.
Et donc, vous avez assisté à plusieurs matchs dans ces trois pays-là.
C'est ça.
Ouais. Et je voulais te demander, est-ce que ça se distingue de ce que vous connaissez en France quand vous allez voir un match? C'est-à-dire, je ne sais pas, au niveau ambiance, même infrastructure, je ne sais pas, puis même au niveau du rituel du match, ou alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... J'ai tendance à voir, moi, quelque chose d'un peu universel dans le déroulement d'un match, puis dans le foot, qui ferait qu'on retrouve un petit peu les mêmes codes à chaque fois.
Non, c'est une bonne question.
Ouais, quelle part on a entre l'universel du foot et puis les différences entre pays.
Alors, c'est vrai que c'est complètement différent au premier abord, rien que les infrastructures. Ce qu'on a en Europe et notamment en France, on se rend compte qu'on a des stades, des stades vraiment de premier ordre qui peuvent accueillir 30 000, 40 000 personnes, 50 000, etc. Dans ces pays-là, on est plus de l'ordre de 15 000 ou 20 000 qui ne sont pas souvent remplis et qui sont parfois de véritables ruines, on peut l'appeler comme ça. À Tétovo, Le stade, c'est vraiment une enceinte de béton où la moitié des sièges sont arrachés, sont en ruine. Il y avait un arbre qui poussait au travers des tribunes. C'est ce genre d'endroit qu'on va croiser assez souvent. Mais qui porte un certain charme pour nous. Enfin, c'est aussi une bonne part de ce qu'on vient chercher, l'architecture des stades, de trouver des lieux assez improbables mais qu'on garde toute une âme, parce qu'ils ont souvent été construits pour un événement particulier ou pour une période particulière, et où tout le monde vous redit, vous rabâche que à quel point le club, que ça pareil en Macédoine, en Serbie, en Géorgie comme avant, enfin dans tous ces pays-là. Donc des lieux qui portent là une vraie identité. Après, dans la façon de vivre le football, elle est très différente. On associe souvent le football de l'Est à beaucoup de violence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion qui est mis derrière, beaucoup moins de régulation et beaucoup plus, beaucoup plus d'enjeux de représentation, d'identité qui sont abordés dans les stades, et qui est aussi une bonne part, en tout cas pour ma part, de ce pourquoi je m'intéresse à ça. C'est des fois rien que regarder les tribunes de certains stades, c'est prendre une leçon des jeux politiques. En Serbie, il n'y a pas un stade, un groupe de supporters qui ne déploie pas plusieurs drapeaux, Kosovo et Serbia, ou le Kosovo c'est la Serbie. En Macédoine, dans la ville des Albanais, le drapeau albanais était à profusion. Avant le match, on avait la chanson officielle qui accompagnait l'équipe d'Albanie à l'Euro 2016, plus une autre chanson également en introduction qui énumère les provinces, ce qui correspond à l'Albanie, avec un beau refrain, mais si on ne parle pas albanais, qui est Kosovo, Kosovo, Kosovo. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses.
C'était un match entre qui et qui, ça, du coup
Ça, c'était un match entre Shkendia Tetovo,
ouais,
le club albanais, contre le Vardar Skopje, qui est le plus grand club macédonien, et qui lui, représente la majorité orthodoxe slave de Macédoine.
Et donc, Skjendija, donc club albanais, mais basé en Macédoine, c'est bien ça?
C'est ça.
Ouais, parce qu'il y a un article très intéressant à son sujet sur... c'est toi qui l'as écrit, il me semble, ouais, sur Footballski. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce club? Parce que je trouvais ça intéressant par rapport à l'identité, la question de l'identité nationale mêlée à la question du sport.
C'est un cas qui est vraiment révélateur, puisque le nom, déjà, Shkendia veut dire étincelle en albanais, qui a été créé en 1979, si je ne me trompe pas, donc pendant l'époque yougoslave, quand la Macédoine faisait partie de la Yougoslavie, par des gens qui considéraient que les Albanais étaient une minorité trop peu représentée dans le sport, dans les institutions, dans la société yougoslave en général, donc avec déjà une part de revendication albanaise derrière. Qui a très vite eu un succès populaire vraiment important, avec des milliers de personnes qui venaient pour des matchs d'assez bas niveau, donc qui est monté assez vite dans les divisions, qui a été dissous ensuite quelques années plus tard, qui a eu une période de latence de 10 ans et qui a été recréé à l'indépendance de la Macédoine en 91, et qui depuis est considéré comme le club qui doit représenter les Albanais en Macédoine, avec des supporters très passionnés, comme on peut le dire.
D'accord, ouais. Mais il m'avait semblé lire aussi dans ton article que certains de leurs matchs sont quand même un peu émaillés d'incidents d'autres supporters qui ont cette connotation nationaliste, justement.
Oui, on a eu l'occasion de...
penser. J'imagine que sur le total du nombre de matchs joués, ça reste ponctuel, mais je ne sais pas.
Oui, non, on peut le dire que c'est quelque chose qui est pour un symbole qui est censé représenter les Albanais en Macédoine par tous les moyens. Il y a plusieurs exemples, plusieurs épisodes pendant un match de coupe où le drapeau macédonien était levé dans le stade, les supporters sont sur le terrain pour le décrocher et mettre le drapeau albanais à la place. Un match également où ils ont déployé dans les tribunes des banderoles, c'était assez drôle, qui ressemblaient à aux petits papiers, en fait, que quand il y a des tirages dans les Coupes d'Europe, qu'il y a un tirage au sort des clubs qui doivent se rencontrer, avec tous les clubs de pays, en tout cas d'endroits qu'ils considèrent comme albanais, et au lieu d'avoir le nom du pays à côté, ils mettaient tous Albanie, 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 donc les clubs kosovars, le Shkendia albanais, le club du Kosovo albanais, etc., etc. Ouais, et on a eu l'occasion après ce match de discuter avec le leader des supporters de ce groupe-là, qui a fait quelques temps en prison, puisqu'il était impliqué dans des... C'est-à-dire qu'en 2001, il y a eu une quasi-guerre civile à Tetovo, en Macédoine, entre justement les Albanais et le gouvernement central de Macédoine, les Albanais considérant qu'ils n'avaient pas assez de représentation dans le pays. Et donc cet homme-là, il s'est battu, clairement, il a mort contre des représentants de Macédoine. Donc pour lui, ça lui... Il n'est clairement pas question de dire qu'il habite dans un pays, enfin, il habite dans un territoire qui pour lui est quasiment occupé. Donc voilà, ça peut en venir assez rapidement la violence. Ouais. Mmh. Il fallait être assez gentil avec lui.
Donc ouais, les rivalités sportives se doublent de rivalités entre sentiments nationaux et...
Oui, très rapidement.
Ouais.
La même chose en Serbie.
Ouais.
Ouais.
Mmh. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon, du coup, on va conclure cette partie de la discussion par ça avant de passer à la pause musicale. C'est une question très vaste, mais tu peux la prendre par un biais un petit peu... Enfin, tu peux choisir un pays, par exemple, pour y répondre. Est-ce que tu pourrais faire un petit état des lieux rapide de la situation du foot dans la région, ne serait-ce que, par exemple, citer les clubs qui sont connus à l'international, s'il y en a, et puis les joueurs également.
Ça va être un peu vaste.
Ouais, c'est très vaste.
Je peux choisir ça. Mais si on...
Bon, alors, vu de l'international, même de l'Europe de l'Ouest, qu'est-ce qu'on en connaît déjà, enfin, qu'est-ce que connaissent les passionnés de foot? Parce que bon, voilà, plus exactement, ouais. Parce que moi, j'en connais rien, voilà. Mais les passionnés de foot, qu'est-ce qu'ils connaissent du football des Balkans?
Ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe de l'Est n'est quand même pas indifférent pour les amateurs de football. C'est une terre avec une grande tradition de football. Les équipes yougoslaves, du RSS, de Pologne, de Roumanie ont une grosse influence avec des très bons résultats durant toutes leurs années communistes. Ont un peu plus de problèmes après l'indépendance, se sont un peu reconstruits, mais n'ont plus forcément les moyens financiers qu'ont tous les clubs d'Europe de l'Ouest actuellement pour exister. Mais y a encore des noms qui font, je pense, rêver beaucoup, beaucoup d'amateurs. On pensait à l'Étoile Rouge de Belgrade et aux Partisans, les deux grands clubs, les clubs de Moscou, le CSKA, le Lokomotiv, le Spartak. qu'est-ce qu'on peut citer? L'Hajduk Split en Croatie, Slovan Bratislava en Slovaquie, tous les clubs grecs qui ont aussi une grosse importance, Olympiakos, l'AEK, le Panathinaikos. Donc c'est des clubs plus certains joueurs qui sont assez rentrés dans la légende et qui disent forcément quelque chose aux amateurs de football.
D'accord, donc ta réponse leur parlera sans doute. Alors, donc, je te propose qu'on passe à la pause musicale que tu as choisie. Donc, c'est un morceau de Nino Bacharouli qui s'appelle Isvaji. Et tu nous expliqueras peut-être après le morceau pourquoi ce choix. C'est ça, je vais le dire tout de suite, c'est un morceau géorgien. Donc, c'est plutôt en rapport avec ton voyage en Géorgie que celui dans les Balkans.
Sachant que la Géorgie, c'est plutôt le pays sur lequel j'écris principalement sur football ski.
D'accord. Donc voilà, Nino Bacharouli, Isvaji.
Romar manebs modis da
C'était donc Isvaji de Nino Bacharouli. Et donc c'est toi, Antoine, qui as choisi cette pause musicale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, c'est donc un morceau géorgien pour rappeler un peu mon domaine plus de prédilection sur football ski. Je me rappelle que tu m'avais posé au départ la question pourquoi je me suis intéressé à ces pays-là. Tu sais, quand je voulais postuler au Warsaw Elysia, je savais que je voulais aller... en Corée du Sud, c'était mon deuxième voyage, mais j'avais la Géorgie déjà dans un coin de ma tête. Et quelques mois avant qu'on me propose d'écrire pour Football Ski, j'avais vu, totalement par hasard, quelqu'un qui avait publié juste un like, je sais pas, sur le mur Facebook d'un ami d'une chanson géorgienne qui était celle-là. Et parce que j'ai gardé en tête, je m'étais dit, oh, elle est belle et tout, celle-là. Et du coup, ça a peut-être influencé mon choix aussi de m'intéresser un peu plus particulièrement à ce pays-là. Et depuis, j'aime bien la musique géorgienne.
D'accord, donc ouais, c'était, enfin, tu l'as découverte avant ton voyage.
C'est ça, sans savoir.
Et elle t'a accompagnée ensuite, d'accord. Alors, donc pour revenir un petit peu au voyage, voilà, tout simplement. En lisant un peu les articles que tu as écrits et puis que aussi tes compagnons de voyage ont écrit sur Football Ski, on s'aperçoit qu'il y a il y a une sorte de mélange entre ce qui a trait à vos recherches, à votre sujet, donc vraiment au football et puis aux rencontres que vous avez faites en ce sens, et en même temps du récit de voyage, parce que vous racontez vraiment vos journées en quelque sorte, les lieux dans lesquels vous allez, que ce soit ou non parfois en rapport avec votre sujet. Et donc comment est-ce que tu jongles en fait, comment est-ce que tu joues entre journalisme sportif et récit de voyage dans ta démarche de voyageur?
Ouais, c'est clairement voulu. Moi, j'ai me dis vraiment, quand j'écris, j'ai envie de déjà d'intéresser un maximum de gens à ce que j'écris. Je peux bien être passionné de football si je parle à deux personnes qui en plus ont un intérêt pour le football géorgien. Bon, c'est pas super super intéressant. Et donc voilà, le fait de mixer nos découvertes sur place, de ce qu'on en sait déjà et ce qu'on découvre aussi sur place, qu'on confronte à l'image qu'on pouvait en avoir parfois. Voilà, c'est essayer de faire vivre aux lecteurs ce que c'est que d'aller voir un match de foot dans ces pays-là, mais aussi tout simplement ce que c'est de découvrir ces endroits-là, puisqu'on essaye de le découvrir nous sous plein d'angles différents, donc aussi essayer de transcrire nos chemins, notre découverte à l'écrit, voilà. J'essaie de me dire cet article, enfin je suis allé dans cet endroit-là par cet article, j'ai envie que un maximum de monde puisse le lire sans me dire est-ce qu'il va tout comprendre.
Oui, c'est vrai que ça se ressent bien dans vos articles. Au moins pour une partie d'entre eux, ça peut très bien parler. Enfin, ça me parle malgré mes connaissances absolument presque nulles en la matière. Alors, à chaque émission, je demande à mon invité de choisir un livre ou un film qui l'inspire en tant que voyageur. Donc, on a souvent de la littérature de voyage. D'ailleurs, on n'a eu que des livres jusqu'à maintenant. Personne n'a choisi de film. Tiens. En tout cas, toi, tu n'as pas choisi vraiment de... Enfin, c'est pas de la littérature de voyage que tu as choisi, mais c'est quelque chose qui a donc un lien très fort, évidemment, avec tes recherches, avec ton thème d'études, voilà. Il s'agit de l'ouvrage de Gigi Riva, Le dernier penalty. Alors, pour le présenter un peu, Gigi Riva, donc, c'est un journaliste, grand reporter, qui a couvert les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Et son ouvrage est un peu entre histoire, biographie et récit assez romancé, en fait, tout en étant très fidèle, très exact. Hadi Bejic, oh là là, il suit le parcours de Farouk Hadi Bejic, qui donc est un footballeur d'origine bosniaque, et en même temps il raconte en fait l'histoire du football yougoslave et ses enjeux politiques avant le basculement dans la guerre et surtout jusqu'au match du 30 juin 1990. Il s'agit donc du quart de finale à Florence contre l'Argentine, un moment de communion assez rare, et puis le dernier peut-être pour la Yougoslavie autour de l'équipe de football yougoslave, avant la défaite de l'équipe, donc avec ce fameux tir au but manqué, ce penalty manqué, ce dernier penalty de Hadji Bejic. Donc la question qui hante un peu le personnage et le récit, c'est donc que se serait-il passé s'il avait réussi son penalty au lieu de le manquer. C'est un peu une question qui hante tout le récit.
C'est ça. C'est une question un peu rhétorique quand même, puisque en lisant, on se rend vite compte qu'il se sert de cet épisode et de cette question pour dire il y avait un certain fatalisme dans la situation de cette équipe yougoslave à cette époque-là, puisque on est en 1990 et les républiques... les républiques de les fédérations de Yougoslavie allaient déclarer leur indépendance les unes après les autres après ça, et même dans une équipe de Yougoslavie de football, des gens de différentes confessions, ils sont de différentes origines, les Croates, les Slovènes, les Serbes, les Bosniaques, les Macédoniens, à la base, voilà, sont des sportifs, sont surtout là pour leur performance, pour représenter la Yougoslavie. Même eux sentent un peu leur monde craquer autour d'eux, et les divisions s'installer dans leur entourage. Donc voilà, c'est vraiment le postulat de départ du livre, et qui va parler historiquement, qui va aller un peu plus loin, partir dans les années 80, de ce qu'est la Yougoslavie que donc Farouk Hadji Bejic a connu, notamment la Bosnie, le Sarajevo de Hadji Bejic, et comment il l'a vu évoluer à travers sa carrière, sachant que lui a quitté en 1990 la Yougoslavie pour aller jouer d'abord en Espagne et ensuite en France. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est resté en France après, qui est assez connu, là, aussi des amateurs de football, qui passait par Niort, par Sochaux. C'est quelqu'un qui parle bien français, qui est régulièrement invité sur les plateaux spécialisés. Et voilà, qui à cette époque est capitaine d'une équipe qui est un peu en train de se décomposer. Et lui se sent dépositaire de l'unité yougoslave et essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de ses coéquipiers croates, serbes, bosniaques qui commencent à plus parler. Et effectivement, en se disant que. Ils sont en quart de finale contre l'Argentine de Maradona. Lui, il est capitaine, il doit tirer le dernier pénalty de son équipe pour essayer de se qualifier plus loin dans le tournoi, en disant que des victoires sportives ont parfois fait de grandes choses, ont réussi à amener l'union de certains peuples. Mais voilà, s'il avait réussi, s'ils étaient allés plus loin en finale, voire gagné le trophée, est-ce que les Yougoslaves se seraient peut-être dit, se seraient rassemblés autour de leur équipe et auraient fait perdurer le pays, ou en tout cas seraient peut-être les guerres qui seraient ensuivies, peut-être auraient été un peu moins sanglantes, un peu moins tragiques. Il y a pas grand-chose qui le laisse espérer dedans.
Rien n'est moins sûr, ouais, c'est
vouloir,
vrai.
Sans vouloir trahir
le. Puis il le dit dans l'épilogue, c'est vrai. Enfin, voilà. C'est vrai que t'as raison, la question est assez rhétorique parce que en fait elle plane un petit peu sur. Sur tout l'ouvrage, et puis dans l'épilogue, il a tendance à dire bien sûr que non, ça n'aurait rien changé, mais on aime bien y croire. En fait.
Mais c'est exactement ça, voilà, on aimerait bien y croire.
On aimerait bien y croire,
malgré le fait voilà, que tous ces gens voilà, ne, en aucun cas souhaiteraient revivre en Yougoslavie, et qui sont quand même, pour une bonne partie, regrettent le temps où. On pouvait vivre avec des Croates, des Bosniaques, des Serbes sans vouloir s'entretuer.
Et donc, pourquoi ce choix d'ouvrage pour ce moment de l'émission ? Est-ce que ta démarche dans le cadre de Football Ski est un peu dans la lignée de ce travail journalistique de Gigi Riva ? Au moins dans l'idée ?
C'est une inspiration. C'est vrai que quand je le lis, je me dis vraiment que c'est un passionné qui l'a écrit, c'est un passionné de football et c'est un passionné de l'histoire qu'il a vécue en tant que reporter à couvrir les guerres yougoslaves et qui essaye de faire partager par un médium qu'il adore, le football, une histoire qu'il aurait peut-être du mal à raconter d'une autre façon. Et en tout cas, il se dit avec ça, est-ce que j'intéresse un maximum de monde, est-ce que les gens peuvent s'identifier à l'histoire de quelqu'un comme Farouk Adibegic. Je pense que c'est ça qui transmet derrière, et ouais, c'est quelque chose qui est vraiment très inspirant.
Et bien du coup, pour terminer, je te propose d'en lire un extrait. Alors c'est un extrait du prologue, le retour de Farouk Adibegic dans les Balkans. Voilà, et en fait je dis dans les Balkans parce qu'il va dans plusieurs pays. Voilà, dans le prologue. Et c'est en fait avant que le récit ne commence vraiment. C'est avant le récit de sa vie. C'est longtemps après le pénalty manqué.
C'est ça. Voici donc Farouk en Serbie, qui descend la passerelle de l'avion. Il arrive au contrôle des passeports, dans cette capitale qui fut la sienne et qui appartient maintenant à une autre nation. Il tend ses papiers au douanier, dont il connaît bien l'idiome parce qu'on peut changer les frontières mais pas la langue. La langue est le lait maternel. Le policier lit à haute voix « Farouk Adibegovic ». Il lève les yeux et d'un ton soudain familier, avec un sourire qui est aussi un soupir, il serre sa petite sentence. Si vous l'aviez marqué, ce pénalty, peut-être que le destin du pays aurait été différent. On pourrait la prendre cette sentence pour une hyperbole vertigineuse, mesurer la distance sidérale qui sépare un pénalty du destin du pays. Un sens abyssal de la poésie épique qui magnifie le pouvoir du sport. Le football comme fonction salvatrice, antidote à la haine et à la guerre. Mais enfin, les abords de la Bosnie, sa Bosnie, où seul l'âge de l'agent de police diffère dans le décor. Un garçon qui peut-être n'était même pas né à l'époque, la barbe ne lui en pas encore poussé. Il lit, marmonne quelque chose, demande la permission, s'assied dans la voiture, tend son téléphone à bout de bras et place son visage à côté de celui du champion pour faire un selfie. C'est pas pour moi, c'est pour mon père. Il me répète toujours qu'à cause de votre pénalty... Il a pris l'habitude, Farouk. 8 fois sur 10, quand je rencontre un Yougoslave, ça se passe comme ça. Le pénalty n'appartient plus au sale espace du foot. Il est devenu mythe, passage crucial, légende. Plus le temps s'écoule, plus la bienveillance prévaut sur le reproche. Le héros qui tombe reste un héros. Hector n'est pas moins valeureux qu'Achille, sa fragilité le rend même plus sympathique. Il ne pouvait en être autrement sur une terre où l'on aime à célébrer les défaites glorieuses. C'est la consolation des perdants.
Je pense qu'on va conclure sur cet extrait du dernier pénalty de Gigi Riva parce qu'en fait, il résume un petit peu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit sur le livre avant que tu lises l'extrait. Quand même, je voudrais te demander, alors ça n'a rien à voir avec l'ouvrage, mais est-ce que, donc toi personnellement, il y a des projets de voyage bientôt, prochainement, plus ou moins prochainement, en rapport ou non avec le foot ?
Oui, bah, chaque été, on essaye de repartir pour un nouveau football ski trip, comme on l'appelle, donc nos voyages dans des pays de l'Est pour essayer de découvrir le foot et certaines choses de la culture locale. Il n'y a encore rien de décidé. La Coupe du Monde en Russie en juin va un peu jouer. Faut avoir sur le site qui voudra bien y aller ou qui est intéressé pour y aller et qui voudrait partir cet été. Je pense que justement la Bosnie m'intéresserait bien. Peut-être que il n'y a rien encore décidé, mais
donc voilà. On reste dans la région alors.
Ouais, m'a bien intéressé cette région.
Alors on se quitte sur un morceau d'Iggy Pop, Football. Alors bon, j'ai fait comme toi, je n'ai pas choisi quelque chose en rapport avec le voyage cette fois, mais en rapport avec le sujet principal du jour. Quoique en fait Iggy Pop c'est aussi l'auteur de The Passenger.
Tout à fait.
Alors, avant de se quitter, je voudrais annoncer la conférence dont tu m'as parlé, qui a lieu à la Sorbonne le vendredi 30 mars à 15h, Football et politique dans l'histoire contemporaine. Donc c'est à la Sorbonne à Paris 4, voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc, pour compléter un petit peu la discussion, surtout n'hésitez pas à aller consulter le site Footballski. Où c'est très très complet. Vous pourrez trouver tous les articles en lien avec ce fameux voyage dans les Balkans.
Footballski.fr, voilà, il y a la conférence, on aura plusieurs sujets d'aborder. Le football dans ce qui est actuellement l'Allemagne de l'Est après la réunification. Pour quelqu'un qui est journaliste maintenant et très, très intéressant à ce sujet. Quelque chose sur le football en Algérie, notamment à l'époque coloniale. Et un premier sujet que j'ai oublié honteusement. Voilà, trois sujets abordés vraiment par des passionnés et des experts dans ce domaine-là.
D'accord, bah, merci beaucoup Antoine d'être venu nous parler foot et nous parler voyage dans les Balkans. Merci aussi à Salomé pour avoir tenu la régie comme à chaque fois ou presque depuis le début de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, a priori pour un voyage dans les îles éoliennes, avec Tom Lévesque sur les traces du personnage de Van Gogh, dans le roman de Timothée de Fombelle. À bientôt!